Cette semaine, dans le balado, on part à la recherche de notre place dans le monde et on assiste à la destruction potentielle de l'humanité, rien de moins. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Allô!
Alors, c'était enfin le jour du Barbenheimer.
Ouais, probablement l'événement cinématographique de l'année.
Ouais, tout à fait. Écoute, c'était devenu viral sur Internet. Les gens achetaient des billets pour une double projection ce jeudi dernier.
Toutes les faux posters qui montraient la synthèse des deux films, soit avec l'esthétique de l'un, de l'autre ou de d'autres films complètement, notamment la pochette là, du... Je sais plus c'est quoi le titre, mais de l'album de Pink Floyd, là, de celui en complet, en feu, qui serre la main à quelqu'un d'autre. Puis là, ils mettaient Cillian Murphy, puis Margot Robbie, etc. Fait que...
Beaucoup de créativité donc a circulé sur Internet ces dernières semaines.
Ouais, puis alors, tout ça, c'est au grand bonheur des deux studios,
c'est
j'imagine.
Clair. Écoute, ben, je pense que beaucoup de mimes ont dû être créés par les studios eux-mêmes.
Peut-être, oui.
Parce que j'ai su il y a quelques années, en fait, qu'il y a vraiment des gens que c'est leur travail.
Ouais, je sais que pour. Sur Netflix, Bird Box, ça avait été ça. Énormément de mimes puis d'affaires comme ça. Puis par après, c'est sorti que c'était le moyen de promotion, c'était ça. C'était juste. Passer des memes sur tous les forums puis les pages Facebook puis les affaires comme ça juste pour que... Mais ça te fait comme une publicité organique au final,
clair,
plutôt que
ben
des
oui.
publicités payées et tout. Fait que,
tout à fait.
Il n'y a plus de secret pour le marketing.
Vraiment pas. Alors, sortie de Barbie et Oppenheimer, entre autres. Mais avant d'attaquer les sorties de la semaine, un petit tour d'horizon... des actualités. En fait, c'était une annonce de la SEDEC qui annonçait une nouvelle vague de projets qui soutenaient dans la phase scénario. Alors, on ne part pas en peur. C'est pas des tournages encore. On est encore à l'étape de rédaction.
Mais d'habitude, c'est pas mal tous des scénarios qui vont se rendre en film par après, en financement de production. Là,
c'est clair. Ça. Peut-être qu'ils vont faire une autre ronde. Des fois, on fait toujours des petits ajustements. C'est pas impossible, mais...
Mais pour dire que c'est plus des films qu'on va voir en 2025, ou plutôt 2025, peut-être même du 26.
Oui, tout à fait. Alors, parmi les projets annoncés, un qui circulait quand même depuis quelques temps déjà, c'était toujours à l'étape de rumeurs, bien que les scénaristes confirmaient leur intention. C'est Pierre-Yves Bernard et Claude Legault qui ont reçu l'aval pour le troisième scénario de Dans une galaxie près de chez vous. Donc, je pense que ça va ravir beaucoup d'amateurs de voir enfin un nouveau film sur les écrans.
Ouais, c'est certain. Toi, t'es un peu plus vieux, mais t'as-tu écouté ça un peu, les émissions aussi et tout?
Ouais, moi, j'étais tombé sur hasard un moment donné. C'était Vrac à l'époque.
Ouais.
Puis, écoute, j'étais tombé là-dessus, puis j'avais comme trouvé ça tellement absurde et singulier que j'avais complètement embarqué. Puis, évidemment, j'ai fait écouter à mon garçon un peu plus vieux, là, peut-être en tournant du premier film. Puis, moi, je suis un grand fan de cet univers-là.
Je sais même pas si les films, je les ai vus plusieurs fois, peut-être deux fois, là, parce que ça date
plusieurs
années.
Vu,
mais je les connais pas par cœur non plus. Fait que...
Je suis pas un fan de cet ordre-là non plus, mais tu sais, je les ai vus quelques fois apprécier. Puis, je suis bien content, honnêtement, qu'on puisse avoir ce qui sera probablement le dernier film, là, parce qu'elle a rendu aussi dans l'âge où ils sont, ils approchent toute la soixantaine. Donc,
ben, puis comme on dit, une trilogie, c'est tout le temps, tout le temps bien. Tu sais.
Effectivement. Donc, parmi les autres projets qui ont retenu mon attention, India Desjardins scénarisera un prochain film hanté, une comédie familiale que j'ai hâte de voir, on n'a pas plus d'informations. Florence Lompré, la comédienne de Like Moi, qui est maintenant vraiment rendue une scénariste aguerrie en plus d'être comédienne.
Oui, puis j'ai oublié c'est quoi le nom de. Elle a une série télé aussi qui a vraiment.
M'aimes-tu, c'était ça ou.
M'entends-tu.
M'entends-tu, oui.
Ouais, voilà.
Qui était vraiment très, très bon, trois saisons. Alors, premier scénario de long métrage, Letter from a Stranger.
OK.
Pas d'indication si ça va être un film en anglais ou en français, mais avec le titre comme ça, ça laisse peut-être présager que ce sera un film anglophone, mais peut-être pas non plus.
Ou à moins que ça soit justement une espèce de. Je sais pas, de correspondance entre un anglophone puis francophone. Mystère.
Et puis, pour les productions La Fête, donc Compte pour tous, ce sera Le Petit Astronaute qui va être une adaptation d'une bande dessinée qui a gagné beaucoup de prix. Je pense qu'il y a déjà 2 ans qui est peut-être sorti, de Jean-Paul Hyde, donc sur un enfant handicapé. Donc, très hâte de voir ça aussi, comment on va adapter cette bande dessinée-là. Alors...
Puis ça, ben là, on a nommé 3-4, mais ouais, il y en a comme 30. Là.
Ouais, c'est ça, il y en avait plusieurs. Puis, mais c'est peut-être ceux qui ont retenu plus mon attention. Voilà. Sinon, autre actualité, André Forcier, réalisateur québécois enfant terrible, est en production de son 16e film déjà, quand même. Alors, on sait que le réalisateur a vraiment un univers très singulier. Le titre, c'est « Ababouiné ». J'ai oublié de noter, par exemple, qui était dans le film, mais alors pour les amateurs de Forcier, un nouveau film s'en vient probablement pour 2024.
Je dois avouer que je crois que j'en ai vu aucun. Je crois que j'ai vu zéro film dans les Forciers.
Je dois confesser aussi.
Maintenant qu'on a le balado, que souvent on rencontre les équipes et tout, quand il y a des événements, je pense qu'il faudrait que je fasse un petit peu de rattrapage. Je pense pas que j'écouterais les 16, là, mais si je peux en écouter comme deux des plus majeurs, puis peut-être les deux derniers, là, quelque chose pour me faire un petit portrait ce quand même cinéaste iconique.
Ben, c'est ça. Puis non, moi aussi, ça manque à ma culture cinématographique québécoise, je l'avoue d'emblée. Sinon, pour les amateurs de Décadence, le nouveau film Décadence 10, j'imagine en français, est devancé d'un mois finalement, devait sortir le 27 octobre, finalement sortira le 29 septembre.
Ben, c'est pas de mauvaise chose parce que octobre était déjà bien chargé en films d'horreur, déjà qu'il y a 5 nuits chez Freddy le 27 octobre aussi. Là.
Tout à fait. Alors, et on a donné un petit peu plus de détails parce que jusqu'à maintenant, le synopsis était resté top secret. Donc, le film va se dérouler entre le premier et deuxième volet. Alors, c'est qui explique pourquoi que Jigsaw, le méchant, revient. Parce qu'il était évidemment mort.
Oui, ça fait un bout en plus.
Oui, c'est ça, je pense dans le 6, 3, 7, 4, là, moi, c'est ça.
Mais là, il va y avoir plein de de-aging.
Bonne question, parce que le comédien, c'est quand même pas un genou non plus. Là. Fait que, j'imagine qu'ils vont. Ils n'auront pas le choix, parce que ça fait quoi déjà? Qui est au moins.
Hey, ça fait 20 ans.
20 ans, genre, c'est ça, en début 2000, le premier film. Fait que,
c'est quoi un peu l'histoire entre le 1 et le 2, l'as-tu noté?
C'est qu'il va chercher.
Une procédure médicale parce qu'il y a un cancer.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il va subir des expériences, mais finalement, ça va être comme une arnaque.
Ouais, c'est ça.
Puis là, il va se venger sur les médecins, quelque chose de même. Puis sinon, du côté de Warner, je ne sais pas si tu as vu ça passer. C'est hier, en fait, que ça a comme coulé un peu, là, mais il n'y a rien d'officiellement annoncé, mais qui jouerait dans leur calendrier de sortie là, à cause de la grève.
Ouais.
Et ça toucherait probablement Dune Part 2 qui serait poussé à 2024.
Ah, parce qu'ils voudraient faire une tournée promo avec les comédiens et
voilà,
tout.
Effectivement, c'est ça. Donc, pour l'instant, Dune, Aquaman et c'est quel autre? The Color Purple.
Ouais.
Donc, leurs trois gros films seraient
pas. J'avoue que Wonka, ça va être dans leur gros film aussi. Je sais pas s'ils l'ont
c'était
évoqué.
C'était Warner aussi. Donc, non, Wonka n'était pas touché pour tout de suite, en tout cas.
OK. C'est ça qu'on disait la semaine dernière. C'est bizarre, c'est qu'ils ont, pour l'instant, ils ont la couleur pourpre, genre le 15 décembre ou le 25 décembre, puis Wonka le 15 décembre.
Ouais, c'est ça, les deux en 2 semaines. Ouais.
Fait que c'est très bizarre. Là. Fait que déjà là, on sentait qu'il y en a peut-être un des deux qui serait repoussé. Là. Mais OK. Ah, mais là, ça m'attriste beaucoup.
Ça serait très triste d'attendre un autre 6 mois et plus pour Doom.
Mais en tout cas, la consolation, c'est que le film est fait puis qu'il va avoir lieu et tout. T'sais. Fait qu'il est prêt, là, ou presque. Là. Fait que... C'est sûr qu'on va le voir un jour.
Donc, ça va être à suivre. Warner, pour l'instant, dément un peu cette rumeur-là, mais ça viendrait quand même d'une personne source sûre dans les milieux hollywoodiens, là, avec quelqu'un qui est au marketing ou quand même. Bref.
Tu te promenais sur Twitter, puis c'est là que tu as vu.
Non, je suis allé straight to Variety, qui est souvent ma source de nouvelles officielles.
Oui, c'est correct. Correct comme ça. Puis j'ai oublié de mentionner d'entrée de jeu, mais on enregistre à un endroit différent de l'habitude. Fait que j'espère qu'il y a un peu plus d'écho. Là. J'espère que la qualité est quand même bonne. Je vais le découvrir en éditant, en mettant en ligne tantôt l'épisode. Là. Mais bon, voilà.
Et justement, parlant des effets de la grève des comédiens à Hollywood, ça a un impact sur une nouvelle qu'on vous avait annoncée la semaine dernière où c'était Nicolas Cage qui venait à Montréal pour Fantasia recevoir un prix et tout ça. sa présence a été annulée. Ouais, donc, c'est... M. Cage ne sera pas à Montréal pour ceux qui voulaient peut-être aller à sa rencontre lors de la projection
du
film.
La projection a lieu quand même et tout du film, oui. C'est ça? Si ça se trouve, le réalisateur va peut-être être là, mais le Nicolas Cage, non, effectivement.
Non. Fait que, voilà, sinon pour l'actualité, avais-tu d'autres choses, toi, non?
J'étais juste prêt à rebondir.
D'accord.
Bande-annonce, je me souviens plus, t'as-tu noté?
Ouais, j'en ai noté une. J'aime pas trop revenir sur des deuxièmes bandes-annonces, mais il y a The Marvels plutôt, qui est sorti hier. Mais là, on en prend un peu plus parce que la première était quand même assez cryptique là, sur ce qui...
On comprenait qu'il y avait trois personnages.
Ouais, fait qu'on a... Puis qu'il y avait des pouvoirs interchangeables. Là, donc,
oui, c'est
ça. Mais là, finalement, on comprend que l'ennemi à abattre et qui serait peut-être derrière tout ça, c'est une guerrière Kree. Alors, il y a une guerre civile Kree. Je pense à tout ce qui s'est passé avec les Skrulls et Thanos et tout ça, donc qui semble vouloir s'en prendre à nos dames, parce qu'évidemment, The Marvels met en scène trois super-héroïnes, Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau. Je ne sais pas quel nom qu'ils ont donné, je ne me rappelle plus.
Et la némésis, la méchante, c'est-tu une comédienne connue?
Non, c'est Zoe Ashton qui joue Darben. Donc non, je ne connaissais pas cette comédienne-là. Je pense qu'il vient un peu plus de la télévision et du cinéma indépendant.
Puis, ouais, c'est ça. Mais là, je m'en excuse si on a oublié quelque chose, là, comme on disait avant d'enregistrer. Bon, on dirait que j'ai suivi tout au long des jours les nouvelles bandes-annonces, les choses comme ça, mais à chaque fois que j'arrive en préparation d'épisode, on dirait que je les oublie.
Non, mais il n'y avait rien de marquant, honnêtement, cette semaine. Il y avait
puis toi, t'es sorti de tes vacances pour venir faire l'épisode.
Oui, parce à quel point...
Semaine iconique.
Oui, ben oui, on ne pouvait pas passer à côté de ces deux sorties très attendues. Écoute, je pense qu'on n'avait pas vu autant de fibrillité de la part des cinéphiles depuis Avatar, là, fait que je pense qu'on ressent vraiment une excitation des gens d'aller au cinéma. Alors, ben, débutons avec, je pense, le plus léger, allons-y, avec Barbie, justement, de Greta Gerwig.
C'est ça. Par contre, je sais qu'on recommande, justement, si vous faites le programme double, vous êtes mieux de commencer par Oppenheimer, puis après d'avoir Barbie qui est un peu plus excité puis qui va vous garder éveillé, parce que tout ça représente 5 heures de cinéma. Là.
Oui.
Greta Gerwig, qui nous avait offert, entre autres, Lady Bird, mais plus récemment aussi Les 4 filles du Dr. March, la dernière adaptation, et qui n'a pas réalisé beaucoup de films à date, mais qui en a scénarisé beaucoup, qui est aussi comédienne. Et elle a co-écrit Barbie avec son mari, Noah Baumbach, qui est aussi un cinéaste. Je pense que c'est des gangs de New York, eux autres. Là. Ben,
ouais,
pas le film, les gangs de New York. Ils sont dans la clique new-yorkaise de cinéma. Ils ne sont pas dans L.A. d'habitude.
Ils ne font pas des films de grands studios. Noah Baumbach fait un cinéma indépendant. Hein,
mais là, elle, oui, elle vient d'entrer dans le film de grands studios avec un mélange de Warner Bros. Puis des jouets Mattel. Écoutez, les deux films qu'on vous parle, Barbie et Oppenheimer, tout le monde est là-dedans. Là. Dans le cas de Barbie, c'est Margot Robbie, Ryan Gosling, il y a America Ferreira, Emma McKay, Kate McKinnon, Simu Liu, le Shang-Chi, Will Ferrell et genre plein de caméos qui jouent des Barbie ou des Ken ou des personnages qu'on va voir le temps d'un gag ou des choses comme ça. Là.
Et beaucoup de comédiens de Sex Education.
Gerwig
a pris,
quand on avait parlé des bandes-annonces ou de je sais pas quoi, ou du casting, puis tout, il y en a trois, là, j'ai oublié leur nom, mais... lui qui fait Eric, qui est le nouveau Doctor Who, puis l'autre qui fait dans la série, le chum d'Eric, le fils du directeur, là, j'oublie son nom, là. Bref, qu'est-ce qui se passe dans le film Barbie? C'était ça le grand mystère du film. C'est-tu une joke? C'est-tu sérieux? C'est-tu au premier degré, deuxième degré? Ce qui arrive, c'est qu'on est dans Barbie Land, où Barbie vit. Il y a plein de Barbie, des Barbie médecins. Ils s'appellent toutes Barbie, Barbie astronaute, surfeuse, n'importe quoi. Nous, on va suivre qui est la plus Barbie générique, mettons. Puis, ils sont conscients qu'ils sont des jouets. Mais ils sont dans l'univers de Barbie et ils sont comme un peu attitrés à un humain derrière. Et là, elle va commencer à avoir des pensées différentes, des pensées un peu plus sombres. Puis elle va réaliser que c'est probablement parce que l'enfant qui la possède est en trouble. Donc, elle va quitter Barbie Land pour essayer d'aller régler ce problème-là. Et Ken va l'accompagner dans son voyage. Mais lorsqu'ils vont revenir à Barbie Land, les choses vont avoir changé, voire détérioré. Alors là, ils vont devoir corriger cette situation. Fait que c'est un peu l'effet papillon, mais pas dans le voyage dans le temps, mais dans le en se promenant entre le monde réel et Barbie Land, finalement. c'est une comédie au final, là. C'est vraiment ça, sur trame de fond de, ben, d'émancipation de la femme, de féminisme, mais aussi de pression sociale, de patriarcat. Pas nécessairement pour dire que juste tous les hommes, c'est de la marde, là, mais juste de trouver, de niveler une balance là-dedans.
Mais quand
si
même,
on
la masculinité toxique aussi, on aborde ça.
Ouais, ben là, ça, c'est jamais une bonne chose, là. Ouais. Fait que t'en as pensé quoi, toi? Si
ben écoute, c'est un film qui a résolument un point de vue féminisme dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a vraiment de bons gags. C'est un film à message, mais pas lourd. En même temps, c'est correct que ça s'adresse plus aux femmes qu'aux gars, là, sinon on aurait eu un problème quand
oui,
même à la base.
Ça. Ben, il y en blague même avec ça.
Tout
avec
à fait, c'est ça. Fait que, je pense qu'un homme de bonne foi va s'y intéresser parce que quand même, je pense qu'il y en a qui vont être malheureusement offensés par un discours qui est quand même inoffensif, on s'entend. Là. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment embarqué. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça original. Vraiment un gros coup de cœur pour la direction artistique. J'ai adoré tout le monde de Barbie Land, de la façon qu'ils ont recréé des jouets iconiques, mais dans ce vrai monde-là là, de Barbie Land. Écoute, c'est inventif, c'est une belle hausse de fraîcheur. J'espère qu'il va avoir une nomination aux Oscars pour la direction artistique. Puis même le scénario, je pense, ça mériterait peut-être. C'est, on s'entend que par moments, c'est très léger et c'est très classique parce qu'on déconstruit un peu la quête du héros, mais il y a quand même une profondeur, ou en tout cas une certaine part de réflexion à amener. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine. Je pense que vous allez passer un bon temps, mais est-ce que c'est un... Je pense que c'est un film que je déconseille aux jeunes enfants, honnêtement.
Ouais, ce serait quoi, un genre de 8 ans et plus, peut-être?
Moi, même pas. Moi, je sais, j'y réfléchissais à quel âge je mettrais. Tu sais, je pense que 10 ans et moins, là, il risque quand même un peu de s'ennuyer parce que c'est pas un film de Barbie straight, là, on s'entend.
Non, c'est ça.
C'est très référence méta. Écoute, je suis pas sûr qu'ils vont piger tous les jokes nécessairement qu'on va faire. Puis peut-être l'aspect un peu film à message va les laisser un peu indifférents. Là. Fait que moi, je mettrais peut-être un 10 ans et plus.
Mais plus au niveau de l'intérêt, là. C'est ça. Ça
ouais,
va, ça va
ça,
pas choquer un enfant
non,
de 7 ans, mais
pas,
il va
mais
peut-être
ça va
pas apprécier.
C'est ça. Justement, ils l'apprécieront pas à la juste hauteur. Là.
Comme un peu Oppenheimer est général aussi, mais j'amènerais pas un enfant de 8 ans.
Ça, dans c'est clair.
Mais là, je pense pas que les gens se posent la question dans le cas de...
Donc, soyez juste conscients de ça, que c'est pas un film qui s'adresse nécessairement à tout le monde. Puis d'ailleurs, je salue l'audace de Mattel, de la compagnie de jeux, là. Ouais. Qui aurait pu juste dire non, faites-nous un film straight Barbie comme Transformers, puis on va vendre des milliers de poupées. Là. Mais ils ont vraiment embarqué dans une proposition. Là,
un peu plus audacieuse.
Oui, vraiment.
Plus audacieuse.
C'est un film subversif quand même un peu.
Qui en fait rend quand même ses lettres de noblesse à Barbie.
Tout à fait, oui.
Va accuser les critiques qu'on fait aux jouets, à l'image corporelle que présente ouais. Barbie, vont rire des mauvaises poupées, des mauvaises idées qu'ils ont eues au fil du temps. Mais au final, rappeler c'est quoi l'emblème de tout ça, tu sais.
Ben, tu sais, non, c'est ça, c'est un film qui a un bon sens d'autodérision, puis je salue Mattel d'avoir embarqué là-dedans. Mm-hmm. Parce que, tu sais, des fois, les corporations, ça peut être très sensible à leur image, là, mais ils ont embarqué à fond. D'ailleurs, en générique de fin, je trouve ça drôle qu'on met les vraies annonces d'époque sur les différentes Barbie qu'on a vues et tout ça, là, parce qu'il y a eu des concepts assez farfelus par moment. Là. Donc, non, vraiment, c'est un film très réussi. Greta Gerwig confirme qu'il y a vraiment une cinéaste vraiment là, maintenant, pas juste à suivre, mais bien établie, qui a une sensibilité, qui a une vision bien à elle. Puis, je voulais juste faire une petite note aussi que c'est quand même intéressant qu'on fait un petit clin d'œil à la créatrice aussi de Barbie, qui était Ruth Handler, si oui. Parce que dans le fond, Barbie, le nom Barbie vient de sa fille Barbara. Mm-hmm. Et de ce que je savais pas, Ken, c'est son garçon. Alors, okay. Il a donné le nom de
Kenneth.
De Ken,
sûrement,
ouais, Kenneth, effectivement. Et puis, écoute, cette femme-là, quand même, c'était toute une femme d'affaires pour l'époque. Elle a créé Mattel en 1945, quand même.
Je pensais pas qu'elle avait créé Mattel en plus.
Oui, c'était une des cofondatrices de Mattel qui, au début, était spécialisée dans les meubles. On bifurquait vers le monde des jouets. Et elle était la présidente de Mattel de 45 à 74.
Okay.
Fait que, je veux dire, femme CEO à cette époque-là, je pense qu'on pouvait les compter sur les doigts de la main.
Ça explique un peu les références à ça qu'ils font, parce que là, dans le film, c'est Will Ferrell, le CEO de chez Mattel. Fait que je suis comme, OK, je comprends un petit peu plus de petits couteaux qui volent bas un peu, qui ont des petites pointes qu'il y a dans le film. Je voulais revenir sur deux choses par rapport à Barbie. j'ai entendu des commentaires déjà qui circulent que comme c'est un peu Ryan Gosling qui vole la vedette. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends. Mmh. C'est peut-être juste qu'au scénario, l'arc narratif, et Barbie et Ken ont un arc narratif intéressant.
Ouais.
Sauf que souvent, je pense que le Ken de Gosling se retrouve avec les blagues, avec les punchs et les affaires comme ça. C'est pour ça, ouais, peut-être qu'il peut shiner plus. Mais je trouve que Robbie est quand même... Je sais pas si c'est une performance d'Oscar parce que c'est un drôle de film un peu pour ça. Là. C'est, ouais, assez léger quand même.
Mais elle brille.
Oui, c'est ça. C'est, oui, très crédible. Je trouve ça même drôle. Il y a un moment, il y a comme une narration des fois en introduction, puis à certains moments qui accuse le fait de dire comme « Ouais, Margot Robbie est comme vraiment belle. » C'est de même. Là. Parce qu'il parlait de corps imparfait puis de choses comme ça. Puis comme, ouais, c'est pas le meilleur exemple de... qu'on peut mettre. Là.
Alors écoute, elle peut tout jouer. Puis même dans le film, elle a un bon range là, parce qu'elle a quand même des moments un peu plus sensible, oui, d'émotion, puis écoute, elle fait avec une facilité déconcertante.
Puis, tu sais, ça, pour revenir sur la direction artistique, là, j'ai vu plusieurs entrevues là, de junkets de presse autour, puis tu sais, tous les comédiens, tout le monde capote, là, ça devait être fou, là, tu rentres là, tout est rose, ils ont recréé en géant les jouets, ils jouent avec les codes, vous allez voir, c'est très drôle quand ils présentent l'univers, tu sais, que ça te rappelle quand tu jouais ou quand tu voyais tes frères et sœurs, cousins, cousines jouer avec des Barbies, que des pots vides, tout son frigidaire, c'est des dessins d'objets. Elle prend l'objet, elle fait semblant de
la
boire les choses.
La mère est en plastique.
C'est ça. Elle met de la bouffe dans son assiette, elle s'assoit, puis elle fait « Bon, ben j'ai fini de manger, mais tu sais, elle mange pas. » C'est ça, c'est des jouets, il n'y a pas de doute. Puis la directrice artistique, justement, qui est Sarah Greenwood, elle a travaillé sur plusieurs autres trucs, entre autres La Belle et la Bête, le dernier remake, puis les deux Sherlock Holmes. Fait que, je sais pas, je trouve que quand même, ces univers-là... des univers précis, d'aller chercher un matériel puis rendre ça très crédible. Fait que chapeau à ça.
D'ailleurs, elle s'est inspirée de l'architecture de Palm Springs, je sais pas si tu avais vu ça, qui était très présent dans le film de Olivia Wilde l'année passée. Avec
Palm Springs?
Ouais, avec Florence Pugh. Là,
OK, non, mais c'était pas... ça s'appelle pas Palm Springs, c'est un film avec Andy Samberg, c'est...
Non, mais c'est une communauté dans le désert, Palm Springs. Okay, oui, c'est ça. Ou qui avait tourné le film là, de...
Oui, comment ça, là. Oui,
c'est ça. Je m'excuse.
C'était en septembre dernier, là,
ouais,
cette affaire-là.
Ouais, ouais. Donc, okay. Fait que c'est vraiment une communauté qui est très banlieue américaine, un peu avec une architecture un peu surréelle, un petit peu, là. Rétro, très rétro, qui est resté encore intact aujourd'hui. Donc,
je comprends. Et pour finir, la direction photo aussi de Rodrigo Prieto.
Ouais.
Qui est là, il y a à peu près 60 ans, là, il en a fait depuis toujours. Là. Il a fait autant 21 grammes, puis Brokeback Mountain, puis Babel, qui sont des gros classiques.
Oui, oui, oui.
Mais il travaille avec Scorsese depuis un bout, parce qu'il a fait Silence, puis Wolf of Wall Street, et Killers of the Flower Moon, qui sort
fait que
cet
c'est
automne.
C'est tout un changement de registre quand même.
Ah oui, c'est sûr, quand Barbie puis Killers
sérieux,
of the Flower Moon.
Là, va dans un truc très éclaté.
Mais tu vois, dans Wolf of Wall Street, c'est moins rose, là, mais... C'est quand même cette folie-là là, qui est plus comparable, si on veut. Ben oui, là, peut-être que Killers of the Flower, on va être plus proche de Silence puis de Brokeback Mountain que de Barbie. Là, mais...
Il y a noté que c'est Margot Robbie quand même qui produit le film. Là, et donc, parce que le film était en gestation quand même assez longtemps, depuis 2009, passé entre les mains de plusieurs studios, jusqu'à temps que Warner rapatrie les droits en 2018 où... Margot incarnait Harley Quinn, était dans les très aimés du studio et tout ça, donc on lui a permis la liberté de produire le film, donc elle est allée convaincre Mattel de sa vision, puis on dit oui. Mais c'était pas elle qui devait jouer dans le film à l'époque, c'était Gal Gadot.
Ouais, ça aurait été bien aussi.
Oui, mais... qui aurait été... mais finalement, elle était prise sur un autre tournage, donc peut-être la verrons-nous dans un deuxième Barbie, et moi je serais prêt à parier qu'on va faire un petit truc avec ça. Puis même que Gerwig aussi voulait mettre Timothée Chalamet et Saoirse Ronan qui ont tourné dans ses films.
Un petit
caméo, un petit clin d'œil, mais les deux, encore là, étaient pris sur des tournages, donc ils n'ont pas pu venir participer.
Chalamet, c'est pas mal sûr qu'il était pris sur un tournage. Il tourne dans tout.
Et puis, mentionnons coup de cœur quand même Michael Cera, que moi j'aime bien, Scott Pilgrim, qu'on peut toujours avoir plus de Michael Cera, qui est très efficace. C'est quoi, Alan, l'ami
de
Alan, Ken.
Oui, Alan, qui est une espèce de poupée un peu
sans
peu
personnalité,
continue. Puis... Ouais, mais on dirait que Michael Cera, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi, il me fait bien rire. Je trouve qu'il y a toujours le bon casting pour lui. Mais j'ai des amis qui ne peuvent pas le blairer.
Ah ouais,
c'est ça. C'est... Mais c'est, il est dur à déguiser dans un rôle. Oui. Puis il fait partie de ces comédiens-là qui est tellement associé que je crois à ces personnages, mais je le sais que c'est Michael Cera instantanément.
Il joue souvent le même type. On s'entend, c'est le même casting.
Et peut-être qu'à l'inverse, justement, si on va dans Oppenheimer, là, on a des comédiens qui sont peut-être plus cachés dans leur rôle. Le nouveau film de Christopher Nolan, qui est quand même une des icônes du cinéma contemporain. Mm-hmm.
Des 20 dernières années.
Oui, c'est ça. Il est peut-être... il y a peut-être à peu près le même âge que Quentin. 10 ans plus jeune que Tarantino, peut-être, justement. Il a commencé plus début 2000, alors que Tarantino, c'était 90. C'est pas le même genre, mais dans ses réalisateurs iconiques.
Iconiques, oui.
C'est écrit juste par Christopher Nolan. Des fois, il était avec son frère, mais pas cette fois. Et d'après le livre American Prometheus de Kate Bird et Martin Sherwin, qui parle de, G. Robert Oppenheimer. Ouais. Qu'on associe à être le père de la bombe atomique. Fait qu'on va être... Drôle de synopsis, là, on mélange plusieurs trames temporelles, c'est-à-dire l'évolution d'Oppenheimer dans les écoles, dans les milieux académiques entre les années 1920 et 1930. Après ça, vraiment, quand il fabrique la bombe A au sein du projet Manhattan, qui était le directeur scientifique des années 40, qui avait construit un petit village et tout, la fameuse bombe qui a fini à Hiroshima et Nagasaki. Et finalement, une audition de sécurité dans les années 50, en 53, parce qu'on le soupçonne d'être associé au Parti communiste russe puis d'avoir fait de l'espionnage. Tout ça va être un peu entremêlé en nous présentant une énorme galerie de personnages, de divers scientifiques, divers politiciens qui ont participé à tout ça. Donc, au générique, il y a encore plus de monde, je pense, que dans Barbie, mais c'est Cillian Murphy, le personnage principal, Emily Blunt qui va jouer sa femme, Robert Downey Jr., lui, qui est assez quand même méconnaissable dans ce rôle-là.
C'est un plus gros rôle aussi que je pensais, parce que, tu sais, il n'était pas très mis de l'avant les bandes-annonces, mais il est quand même au cœur du film. Là.
Et Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh et une infinité de comédiens, surtout. C'est quand même beaucoup des hommes, puisque c'était l'époque des messieurs scientifiques. On a quand même réussi à mettre pas mal toute la vie d'Oppenheimer. On voit pas sa jeunesse puis des affaires comme ça, mais tout à peu près 30 ans là, de ce qu'il a fait pour les États-Unis, pour l'armée, pour la recherche scientifique, dans cette espèce de je sais pas, mouvance là, de avant-guerre, de guerre et d'après-guerre, finalement. C'est très dense comme film. C'est pas... autant on parlait là, de l'événement Barbenheimer, les deux films, mais tu sais, tous les pronostics de box-office sont comme trois fois plus élevés pour Barbie. Là, c'est le film grand public. Oppenheimer, c'est un grand cinéaste. C'est une œuvre de qualité, mais c'est niché. Là. C'est comme du cinéma d'auteur avec un budget de blockbuster. Ouais. C'est pas mal ça. Là, mais...
Puis tu sais, dans sa forme, fait penser beaucoup à JFK pour les plus vieux qui ont connu le film d'Oliver Stone, où c'est quand même un montage assez rythmé. Là. On perd pas de temps. Mm-hmm. On joue à différentes époques. On va de couleur à noir et blanc aussi. Fait que je trouve esthétiquement, là, très influencé de Oliver Stone et son JFK. 3 heures qui est, comment on dit, chargé, qui a beaucoup d'éléments. On introduit beaucoup de notions, de concepts, de personnages. Fait qu'il faut être assez attentif. Et surtout dans le mood, là, si vous voulez chercher quelque chose... Je dirais pas de plus léger, mais un peu plus conventionnel. Ouais. Peut-être attendre, vous êtes vraiment dans l'esprit de concentration parce qu'on nous pitche beaucoup de choses.
C'est ça. Le côté positif de ça, c'est qu'il n'y a pas de longueur dans le film, mais le négatif, c'est qu'on ne vous prend pas par la main. Il faut vous embarquer et soyez alerte. C'est un film de dialogue, c'est un film de
où on traite de physique, de beaucoup de notions abstraites qu'on comme un des mortels connaît pas, bien qu'on essaie de vulgariser quand même le plus possible, puis c'est pas au cœur, mais...
C'est plus le jeu de coulisses qui est intéressant.
C'est ça, il y a quand même un côté drame judiciaire. Moi, personnellement, j'aurais peut-être plus préféré qu'on se concentre sur la partie du projet Manhattan. Je pense que c'est la meilleure portion du film, la plus intéressante. Celle entourant le reste de la vie d'Oppenheimer, peut-être parce que c'est un peu trop abstrait, je pense que le film aurait peut-être gagné à être ralenti un peu, puis des fois s'attarder sur des éléments ou nous présenter dès le départ peut-être certains enjeux. Mais au-delà de ça, c'est Christopher Nolan. C'est quand même un film, d'une grande qualité technique. À noter aussi qu'il n'y a pratiquement aucun effet numérique. Tout a été recréé. Donc, l'explosion de Trinity a été faite à l'ancienne, en effet pratique. Évidemment, ils n'ont pas fait une grande explosion à échelle nature, en plus petit, mais quand même, c'était assez un peu impressionnant à créer, à recréer dans le désert.
Une petite explosion atomique.
Oui, c'est ça. Les comédiens sont tous très bons, même si certains passent un peu en coup de vent, là, mais c'est ça. Mais sachez que c'est un film qui est peut-être un peu moins accessible que je l'aurais pensé. Ouais. Honnêtement, pour le sujet et le budget, là. Donc Nolan ne fait pas de compromis, il avait sa vision. Donc je pense que les fans de Christopher Nolan, de son cinéma, vont embarquer. Pour si vous êtes du genre à écouter un film ici par là, mais que vous aimez l'histoire et tout ça, ben, comme je vous disais, soyez dans l'esprit là, pour aller le voir.
Exact. Ben, sa signature est encore là, mais là, on n'est plus dans des aventures de fantastique ou de science-fiction qu'il a imagé. C'est un drame biographique historique. Là, moi, je note quand même la musique. Toi, je sais que tu l'as trouvé des fois un peu trop présente. Ouais, c'est sûr aussi que Nolan arrive toujours avec des mix sonores qui ne font pas l'unanimité où les présences, les vrombissements, les explosions sont tellement forts que le son de la salle peut pas être trop fort, sinon quand ça arrive, tout déchire. Ouais. Fait qu'on perd un peu de dialogue à l'occasion. C'est pas aussi pire que le fameux Tenet, évidemment, mais moi, je souligne la musique de Ludwig Göransson. C'est un compositeur que j'aime, que j'affectionne beaucoup. Il a un peu volé, ce qu'on dit, les contrats à Hans Zimmer. En fait, c'est que Nolan travaillait avec Hans Zimmer auparavant, mais là, quand Dune est arrivé avec Denis Villeneuve, Zimmer n'était plus disponible. Puis ça a affecté Tenet et ça affecte aussi Oppenheimer. Donc, Göransson a fait la musique de Tenet et il a gagné entre autres un Oscar pour Black Panther. C'est ça qui l'a vraiment mis sa map. Oui. Là. Puis il a fait plein de séries télé. Là, j'en parle à l'occasion. Mais tu sais, les Mandalorians, c'est lui. Mm-hmm. Puis si je me mêle pas, il a même fait genre le thème de New Girl puis de Community. Puis dans début de carrière, là, des trucs plus légers. Mais il y a de la musique pour tous les projets hein, quand même.
Mais à souligner aussi, par exemple. Oui. L'utilisation du son de Nolan est un des rares cinéastes, je trouve, aujourd'hui, à utiliser le son de manière très précise pour évoquer des émotions, des réactions. Donc, à ce niveau-là, c'est très, très bien réussi dans c'est Oppenheimer.
Ça. Et c'est son directeur photo depuis plusieurs projets, là, Hoyt Van Hoytema, qui a fait Tenet, Interstellar, Dunkirk, mais d'autres trucs, là. Nope, plus récemment, de Jordan Peele. Fait que, tu sais, c'est un peu on dit ça des fois. Si c'est le film que vous attendiez, ben je pense que vous ne serez pas déçu. Si vous êtes hésitant, ben peut-être qu'on vous a un peu plus éclairé sur la nature du film. C'est pas c'est un film qui est bien construit, qui a un montage énergique, beaucoup de plans de caméra, beaucoup de lieux de tournage, beaucoup de personnages, mais c'est pas une histoire si excitante que ça. Genre, non, rend excitante, mais à base, elle l'est pas tant que ça.
Je pense que c'est bien résumé, effectivement. Et peut-être, en tout cas, pour ceux qui ont aimé ou qui veulent en savoir plus, tu l'avais mentionné d'entrée de jeu que c'était basé sur un livre de non-fiction, un livre documentaire qui avait gagné un prix Pulitzer quand même à sa sortie.
Okay.
Parce que c'est deux historiens qui ont travaillé une dizaine d'années sur le projet. Ils ont épluché des milliers de documents à la librairie du Congrès et tout ça. Donc, c'est vraiment une recherche exhaustive. Et le film le livre va être disponible en français. Je ne sais pas si c'est une première traduction ou si c'est une réimpression, mais bref, je pense que fin août va être disponible à nouveau en librairie, là, donc à
Sinon,
surveiller.
Il y a aussi la bande dessinée La Bombe qui couvre une partie
qui,
de
ça. En fait, qui va être plus l'impact de la bombe nucléaire, tout ça, donc du point de vue américain, du point de vue japonais, là, les quelques jours qui précèdent le lâchement de cette bombe-là, mais oui, qui est un très beau complément aussi sur aimer les bandes dessinées.
Tu me connais, je me suis empressé de l'acheter et je ne l'ai toujours pas lu.
Ben voilà, il est dans ta pile.
Peut-être dans mes vacances. Dans un autre registre, plus léger, si les blockbusters ne vous intéressent pas, il y a le drame biographique Divertimento de Marie Castille, mention char, ou Scar, je ne sais pas comment le prononce, qui met entre autres en vedette Oulaya Amamra, qu'on avait vu dans Fragile, qu'on avait beaucoup apprécié.
Oui.
On est en 1995, On va suivre Zaya Ziwani, qui est une adolescente d'origine algérienne qui vit en France, en banlieue parisienne, et elle rêve de devenir chef d'orchestre. Puis, dans ce qui semble être la plus grosse année de sa vie, où elle joue au conservatoire, en plus d'être à une autre école de musique, et elle veut fonder un ensemble symphonique dans sa banlieue parisienne pour s'inscrire à un concours international. Mais au travers de ça, elle va être aussi... parrainé par un célèbre maestro roumain qui va un peu la prendre sous son aile puis lui donner des conseils un peu.
Ce qui est d'intéressant en plus à l'histoire, c'est que sa sœur jumelle,
oui,
qui est...
violoncelliste.
Oui, violoncelliste quand même. Donc, c'est une famille de surdoués. Ouais. C'est assez incroyable.
Voilà,
comme histoire.
Puis tu sais, de parents très...
modestes. Ben,
modestes,
ouais,
exactement,
ça, ouais.
Là, qui vient en appartement et tout. Là. Ce qui, à un moment donné, devient un des enjeux aussi également. J'ai beaucoup aimé. C'est quand même un format assez classique, oui, là, de biographie. On reproche à peu près rien quasiment aux personnages principaux et tout. Là. Je pense qu'on a joué aussi un peu dans la temporalité, dans la vraie vie. Ces événements, ils sont arrivés, mais pas tous en même temps, pas tous la même année. Mais pour les fins du film, c'est plus, ouais, évident comme ça. Mais si vous appréciez la musique classique ou même que vous connaissez pas trop, je trouve que ça le présente bien sans être, oui, prétentieux, justement.
Non, plus vraiment pas. Puis
t'as pas besoin de connaître ça, t'as juste besoin d'apprécier ça, ouais, en fait.
Et hors tout des clichés aussi, ce que j'ai aimé, justement, puis j'avais cette même réflexion-là. Je trouve que c'est un beau film à peut-être présenter à vos ados, les introduire à la musique classique parce que, ouais, leur histoire est super intéressante quand même, très accessible là, pour la famille. Écoute, puis moi, gros coup de cœur pour Oulia Amamra, justement, qui a un bagou, mais en même temps, t'as le goût d'être son amie, elle est cool. Je trouve que c'est un beau rôle pour elle. Puis écoute, moi, je suis un sucker pour ce genre d'histoire-là. Comme tu dis, c'est très classique, très propre. Mais c'est quand même très émouvant à voir, oui, comme, oui, histoire. C'est bien présenté. Je trouve que la mise en scène était vraiment bien. Ouais, vraiment.
Il y a aussi beaucoup de films sur la musique classique qui sont toujours joués par des adultes puis des personnes, des quarantenaires et plus. Oui. Fait que là, de voir des jeunes qui sont au conservatoire, qui travaillent là-dedans, qui jouent au soccer aussi, mais qui aiment ça jouer du cor français. Là. Fait que c'est vraiment cool. Mais ça me rappelle aussi qu'à l'automne, il va y avoir de...
Solo, ouais.
Non, pas solo.
Solo,
ça,
oui,
c'est,
non,
c'est autre chose, mais ça s'appelle Les Jours Heureux, je pense.
Les Jours Heureux, oui, t'as, ouais, raison, je pense. Sophie Dupuis, Sophie...
Non, Sophie Desmarais.
Oui, Sophie Desmarais. Bon, je me trompe dans
tout. Sophie Dupuis fait solo, mais ça, c'est sur l'univers des drag queens. C'est pas pareil pantoute, mais je comprends qu'on mélange tout,
voilà,
ça. Bref, on va voir aussi un film québécois, ouais, sur une première femme chef d'orchestre.
Mais l'histoire est... Je pense que le focus est très différent.
Ah oui, oui, absolument, absolument. Je pense que celui au Québec va être plus dramatique. Lui, ouais, quand ça, même... comment dire,
c'est un feel good movie,
c'est un,
oui,
feel,
oui,
good, c'est ça, ça,
moi j'ai eu le
on
même,
traverse les embûches,
j'ai eu le même feeling, un peu sentiment que l'année dernière, c'était avec le film sur
un film de cuisine,
la brigade, ouais, t'sais, peut-être pas autant feel
la
good,
la brigade
là,
était
mais...
plus quétaine un peu,
ouais,
là, dans
un
sa
peu
facture,
quétaine,
mais
tu étais juste content, tu regardes ça, tu admires les gens qui sont à l'écran, puis c'est une histoire que vous aimez bien émouvante. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la comédienne qui joue Fatouma, donc la sœur, mm-hmm, elle jouait vraiment du violon, donc elle a dû apprendre l'autre instrument. Et tous les comédiens sont de vrais joueurs,
musiciens,
de vrais,
okay,
musiciens qui ont passé en casting parce que c'était une volonté, je suis, ouais, la réalisatrice de... C'est ça, la tenait dans les films, justement, quand tu vois un comédien jouer l'instrument, mais finalement, tu devines très vite que c'est pas lui qui joue pour le,
ouais,
vrai. Là.
Puis si t'en as fait un que... ou deux, c'est pas si pire à simuler, mais ouais, si t'en as tout un orchestre, là, t'as, ben, tous les, oui, comédiens, puis après, il faut que tout que tu coupes, tu peux jamais, ouais, les filmer de loin parce qu'on voit que c'est pas eux qui jouent, puis là, ou tu leur donnes tout 8 mois de formation pour qu'ils fassent le minimum. Tu sais, c'est... Non,
et
c'est
ce qui est cool,
logique,
ben, les deux comédiens ont vraiment travaillé avec leur alter ego pour évidemment apprendre leur métier dans le film.
C'est la technique Armageddon. C'est comme dans le film Armageddon, c'est plus simple de prendre des foreurs puis de leur apprendre à
ben
être,
oui,
astronaute que l'inverse. Mais là, c'est dans le bon sens cette fois-ci.
En tout cas, moi, gros coup de cœur pour Divertimento, honnêtement. J'ai trouvé très sympathique.
Et là, ben, vu que c'était le gros événement Oppenheimer, ben, je ne m'en dirais pas qu'il y a pas grand-chose d'autre. Je pense qu'il y a vraiment... Non. Si je me trompe pas, là, je pense qu'il n'y a vraiment rien d'autre qui prend l'affiche. Tout le monde s'est tassé devant
bien
Barbie,
sûr,
et Oppenheimer. Mais nous, on va prendre deux semaines de vacances. Là, toi, t'es sorti pour cette semaine. Mais là, oui, malheureusement, on vous laisse découvrir par vous-même les sorties. Mais on peut présenter très rapidement parce qu'on les a pas vues pour la plupart. Le 28 juillet, le 4 août, là, j'ai pas noté. Ouais, le 28 juillet, il y a Manoir hanté de Disney basé sur le manège, là, genre de mi-famille, mi-horreur. Ouais. Le Parfum vert, qui est plus un petit polar, tu sais, une aventure à la Tintin, un peu un film français avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain. Je l'ai vu. Okay. J'ai vu en cachette, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Okay. C'est très sympathique. C'est très français quand même dans sa forme. Là. C'est pas un Hercule Poirot, c'est juste... c'est un musicien classique qui... c'est pas vrai, c'est pas un musicien classique, c'est un comédien de théâtre, pardon, qui... il y a un de ses collègues qui se fait assassiner sur scène. Puis il va essayer d'élucider ça, mais il est accusé lui-même du meurtre, okay, alors qu'il n'est pas du tout coupable, joué par Vincent Lacoste. Fait que là, il va essayer de trouver la solution à ça, puis il va être aidé d'une espèce de BDiste en mal d'aventure, là, Kiberlain, qui va l'aider.
C'est d'époque ou c'est contemporain?
Non, c'est contemporain. C'est actuel là, et tout. Fait que léger, mais très sympathique, okay, des scènes de discussion de cuisine, des affaires qu'on voit un peu dans le cinéma français, mais tu sais... Ils jouent pas aux super-héros, là. Ils vont pas se mettre à tirer du gun sur tout le monde et tout. C'est pour ça que c'est un peu Tintin dans sa façon d'être. Essayer de démanteler cette organisation qui est le Parfum vert. Il va y avoir le film d'horreur Parle-moi, Talk to Me, des frères Philippou.
Ça, c'en est un qui pique ma curiosité. Ouais,
lui, je pense que je vais essayer d'aller le voir pendant mes vacances, où c'est des jeunes qui vont communiquer avec des esprits en parlant avec une vieille main embaumée. Puis finalement, ils vont avoir peut-être ouvert une porte incapable de fermer. Histoire peut-être qu'on l'a entendu un peu partout, mais ces deux gars-là ont une chaîne YouTube très populaire où ils font des courts-métrages d'horreur, okay, des trucs comme ça. Ils avaient présenté leur film à Sundance l'an dernier, je pense. Puis c'est A24 qui a acquis le film pour le distribuer et tout. Fait que je pense qu'ils ont vraiment cette espèce d'énergie puis de folie qu'on associe beaucoup à Elevated Horror, justement, plutôt qu'au classique horror flick. On est peut-être un peu entre les deux, là. Je pense que ça va satisfaire tous les fans de genre d'horreur. La comédie Theater Camp, qui a l'air très sympathique, mais très nichée. Je ne sais pas si ça va sortir beaucoup ici. C'est un Fox Searchlight, mais...
Pour l'instant, c'est une sortie très limitée aux États-Unis.
Oui, il est sorti genre
7
écrans. Je pense que le 28, il ouvre plus large, okay, mais écoute, ça va-tu se rendre jusqu'au Québec?
Ça va dépendre de son succès, peut-être.
Et la semaine du 4 août, ben, il y a les Ninja Turtles, le film animé aussi, comme on disait précédemment, de la gang de Seth Rogen, Evan Goldberg, qui sont producteurs et scénaristes. Puis ça a l'air de ramener vraiment les Tortues Ninja comme on les connaît, très ado, un style de BD assez éclaté à la Spider-Man, pas pareil, mais dans le même esprit.
Ouais, puis je lisais les directeurs artistiques, en fait, l'idée derrière ce type d'animation-là qu'on voit à l'écran, c'était comme si c'était des ados qui dessinaient dans leur cahier à l'école, tu sais, en marge,
oui,
tout ça, fait qu'ils voulaient quelque chose de pas parfait, et tout, fait que...
On le voit beaucoup dans mon annonce quand il présente, là, tu sais, comme il sort son shuriken, là, la petite étoile de ninja, mais elle est pas toute symétrique, elle est un peu tout croche, puis c'est bien cool.
Non, visuellement, ça a l'air vraiment impressionnant.
Et puis je pense, à date, le running time est sorti, puis je pense comme 1h30, 1h35, là, ça va être très... ça va être joke avec un peu d'action, comme un long épisode des Teenage Mutant. Au Québec, Les Hommes de ma mère, de premier long métrage de Annick Jean, où c'est une jeune femme jouée par Léane Labrèche d'Or qui, suite au décès de sa mère, doit accomplir son testament qui est de partager les cendres avec les 5 hommes importants de sa vie, ses 5 anciens maris, dont un est le père biologique de Léane, de son personnage, mais avec qui est pas mal en brouille. Fait que toute cette aventure-là d'aller les rencontrer, d'essayer de répandre un peu les cendres de sa
on
mère
est
un peu
partout. Plus dans le drame, hein? Je pense que tu l'as dit, c'est ça.
Oui, c'est pas comédie dramatique, c'est plus drame. Pas mélodrame, là, nécessairement, mais c'est ça. Un drame où tu sais, ça va la confronter par rapport à elle-même pour se chercher, faire la paix avec... faire le deuil, en fait. J'ai quand même très bien apprécié. Je crois que ça va connaître un bon succès au Québec. Pour les fans, on en avait parlé... Quand même, pas un feel-good, mais si tu veux passer un bon moment au cinéma, je pense que The Meg 2 de Trench va être assez débile, mais...
Ouais, je pense qu'il va offrir ce qu'il promet. Là. What you see is what you get, comme on dit.
Et c'est ce qui conclut ce balado. Nous, on vous revient le 11 août avec, entre autres, Les Chambres rouges que j'ai vues et que j'ai adorées. Et j'ai hâte que tu le vois aussi et peut-être qu'on puisse parler avec Pascal Plante ou l'équipe du film. Et il y aura aussi Gran Turismo, que j'arrête pas de parler, mais que au final, j'ai quand même rien à foutre. Mais on verra bien si c'est un hit ou un miss.
Ça peut surprendre,
Et écrivez-nous au balado au singulier à commercialmonciné.ca et je vous répondrai le c'est tout quand on reviendra. Et on vous invite tout de même à procurer gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et qui a plein de beaux articles pour tous les films qui sortent cet été. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, ben, on vous souhaite bon Barbenheimer.
Barbie's ouais. Resto Bar Grill.
Parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire votre doublé si vous voulez vous mettre au défi. Donc, bon cinéma, bon popcorn, bon congé de construction pour ceux voilà. qui le sont. Et puis, Jeff, as-tu déjà vu Le Parrain, toi?
Oui.
As-tu le goût qu'on le réécoute et je te l'explique?
Oui, je vais me le mansplainer. OK, parfait.